Ensemble sur Calade.
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 Ensemble sur Calade, c'est en direct du lundi au vendredi de 12h à 14h, évidemment sur Calade. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ensemble sur Calade. Nous sommes le mercredi 1er juillet 2020 et le mois de juillet commence avec les départements de l'Ain et du Rhône en vigilance orange pour cause d'orages annoncés entre 14 et 22 heures aujourd'hui. Effectivement, le ciel commence à s'assombrir, surtout dans le sud de ces départements. Et des averses orageuses sont à prévoir toute la fin de journée avec des températures avoisinant les 32 degrés. Demain, le temps devrait être un peu plus calme, gris tôt dans la matinée, mais le ciel devrait se dégager avec des températures en dessous des 28 degrés toute la journée. On restera quand même en vigilance orange dans ces départements. Voilà pour la météo du jour. Au programme de notre émission, eh bien, ils seront avec nous aujourd'hui dans Ensemble sur Calade. C'est Jean-Louis Chanel pour nous présenter l'édition 2020 du festival Buzz and Pop qui aura bel et bien lieu cette année, le 29 août au Val d'Oin. On va tout savoir sur l'organisation et la programmation de ce festival. On retrouvera le prof Patrick pour une analyse des conséquences économiques de la pandémie. Nous avons également rendez-vous avec Kevin Basile de l'association Fibois qui organise chaque année un événement appelé Vie ma vie de bûcheron pour découvrir les métiers des forêts. Ça se passe tous les étés un peu partout dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Après les pages d'information de 13h, on a rendez-vous avec Vincent Pourageau de l'émission Cinérama pour un point sur l'actu ciné. Georges Botton sera là bien sûr pour sa rubrique musicale Mais la 11e et on terminera l'émission avec un artiste de la scène locale, c'est Stéphane Marchand, joueur de cornemuse assez prisé dans la région. Il nous parlera de sa passion pour la musique. Mais d'abord, et bien pour commencer l'émission comme il se doit, un peu de musique justement. Et puisqu'on va parler du festival Buzz and Pop, autant écouter la tête d'affiche, comme on dit. Elle s'appelle Laura Cox et ça envoie du très très lourd. On écoute son titre Freaking Out Loud, Laura Cox. Nous sommes ensemble sur Calade, il est 12h15, merci d'être à notre écoute.
Cold room, turn away.
Freaking Out Loud de Laura Cox sur Calade, et effectivement, ça dépote.
Ensemble sur Calade, c'est évidemment sur Calade.
Et Laura Cox, elle est programmée cet été, ce 29 août, au festival Buzz & Pop pour l'édition 2020. Et pour nous en parler tout de suite sur Calade, on retrouve Jean-Louis Chanel. Bonjour.
Bonjour Mathieu.
Merci d'être avec nous sur Calade pour parler de ce festival. Alors, un festival en 2020, on ne s'y attendait pas forcément, c'est quand même une très très bonne nouvelle.
Alors oui, effectivement, la sixième édition en 2020. Alors l'association qui organise ce festival, ben, s'est longtemps posé la question pendant tous ces mois de confinement de savoir ce qu'on devait faire. Et puis finalement, ben, on a pris la décision de décaler le festival qui était initialement prévu le 6 juin, de le décaler au 29 août. Et ben, pour deux raisons essentielles. D'abord pour répondre à une demande du public ben, qui est en attente de festivités, hein, comme tout le monde le sait. Et puis aussi pour pouvoir proposer une scène à des artistes qui sont en manque, on va dire, hein, depuis pas mal de temps. Alors on a finalement pris la décision d'organiser ce festival. Alors bien entendu, avec toutes les procédures et dans le respect des contraintes sanitaires qui seront en vigueur à ce moment-là.
D'accord, et oui, comme les informations tombent un peu au compte-gouttes et puis évoluent beaucoup avec le temps, là aujourd'hui, j'imagine que c'est compliqué de savoir exactement comment ça va se passer.
Oui, alors bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit quand même que les choses se détendent un petit peu, que ça et là, le cours normal de la vie reprend doucement, mais avec quelques contraintes. Donc on imagine que fin août, les contraintes sont quand même plus légères qu'elles le sont aujourd'hui et qu'on pourra faire cette programmation dans les meilleures conditions.
Et en profiter le plus possible. Alors, voilà. Le festival Buzz & Pop, c'est la sixième édition, vous nous avez dit, cette année. L'association qui est derrière, comment elle a vu le jour et comment ce festival a vu le jour, comment ça a commencé cette histoire?
Ben, en fait, le festival est né en 2015, au départ, un festival tout à fait amateur avec un groupe de jeunes qui a eu l'initiative de ce festival. Et puis, ensuite, l'année suivante, en 2016, un festival qui a été encadré par une association qui s'appelle donc Buzz & Pop, qui s'est mise en place. Cette association, elle a une dizaine de membres permanents. Et puis pour le fonctionnement du festival, il y a une cinquantaine de bénévoles qui nous rejoignent. Alors le festival il a deux temps, on va dire deux temps forts. Hein. Bon, un temps très fort l'été, puisque le festival là bat son plein dans un parc en plein air. Et puis également une soirée d'hiver, alors qui est souvent qui a été ces dernières années en tout cas consacré à la musique des années 80 et 90 et qui permet aux festivaliers qui sont présents l'été de revivre un petit événement l'hiver et puis à l'association de garder le lien avec tous ces gens qui nous suivent maintenant depuis 6 ans.
D'accord. Et le festival, comment est-ce que ça fonctionne? Il y a l'association derrière pour le faire vivre. J'imagine que ça fonctionne aussi avec des subventions, des aides.
Alors,
de partenaires.
Oui, bon, il y a quelques subventions institutionnelles. Et puis surtout, on est porté par beaucoup de partenaires locaux qui nous sont très fidèles depuis le début. Alors ce sont pour la plupart des travailleurs indépendants, des commerces, et donc qui sont derrière le festival et puis qui nous permettent de réaliser un livret programme qui est diffusé à 1500 exemplaires. Et on entretient, c'est vrai, un lien privilégié avec ces partenaires-là, parce que ce sont vraiment des gens du local et qui connaissent donc bien la région et puis qui ont à cœur de faire vivre une activité culturelle, on va dire, au Bois d'Oin.
Et alors, le festival de cette année, ça se passera au Parc Pichat, comme chaque année, au Val d'Oin. On parlera de la programmation musicale et de ce qu'on verra sur scène après, mais qu'est-ce qu'on va trouver dans ce festival? Comment ça se passe un petit peu? Expliquez-nous.
Eh ben, sur le festival, on trouve... Donc, le festival démarre vers 17h l'après-midi pour se terminer vers minuit, 1h du matin. Donc, tout au long de la soirée, ben, les gens qui sont présents sur le festival, qui viennent au festival, peuvent trouver tout ce qu'il faut pour se restaurer. Il y a de la petite restauration sur place. Ils peuvent aussi avoir un contact privilégié avec les artistes, puisqu'il y a un coin qui est dédié aux dédicaces, et dans cet espace-là, bah, les gens peuvent rencontrer les artistes et dialoguer avec eux au plus près.
D'accord. Et alors, sur la scène, cette année, mais même depuis un moment, j'ai l'impression que le festival est très rock. En février, vous nous avez dit que c'était un groupe de rock des années 80. C'était Mégaphone, je crois, qui reprenait
c'était
le téléphone.
Mégaphone, oui, c'est ça. Oui. Donc en février, c'était Mégaphone, qui est un groupe qui propose des reprises du groupe Téléphone. Et c'était une très, très belle soirée. On s'y serait cru, en fait.
Et alors, très rock, j'ai l'impression, le festival Buzz & Pop, de plus en plus, non?
Ben alors, cette année, effectivement, une affiche très rock. Bon, c'est un petit peu le hasard, en fait, hein, des propositions qui nous ont été faites. Alors, juste pour décrire un peu les artistes qui vont se succéder sur cette scène, on va démarrer en milieu d'après-midi, donc vers 17h, avec l'école de musique des Pays du Bois d'Ouin. Bon, ça, c'est une tradition, hein, c'est notre volonté aussi d'avoir un festival qui propose à des artistes débutants ou des jeunes artistes, hein, ou des futurs artistes, bah, de pouvoir s'exprimer sur une scène bah, dans les conditions idéales pour eux, quoi. Donc bah, ils vont nous proposer voilà, des extraits de leurs travaux de l'année, qui a été aussi bien perturbé par la pandémie. Hein, mais malgré tout, bon, ils vont nous proposer un petit spectacle en début de festival.
Très bien.
Voilà.
Je pense que le festival de fin d'année ouais, dans les écoles de musique, c'est quelque chose qui a beaucoup manqué. Et que pour une école de musique, ça doit être un rendez-vous attendu là, de pouvoir monter sur scène et en profiter pour montrer leur travail.
Ben bien sûr. Et puis pour les parents ou les amis, ben c'est très intéressant de venir voir ce que ces jeunes élèves apprennent et construisent ensemble, quoi.
Alors le festival a continué ensuite avec un groupe Eat Your Dogs, mange tes chiens.
Mange tes chiens, oui. Bon, c'est assez prometteur dans le titre. Bon, c'est un groupe qui a une vingtaine d'années d'existence, un groupe local, parce que le festival, la philosophie du festival, c'est de proposer des artistes locaux qui peuvent s'exprimer en première partie d'une star ou de quelqu'un, en tout cas, qui a une renommée beaucoup plus importante. Donc cette année, bah, c'est Eat Your Dog qui se produit dans ce cadre-là. Donc des gens qui sont sur les scènes depuis une vingtaine d'années, qui proposent un rock assez agressif, hein, on va le dire, issu de... Enfin, calqué sur la période punk. Mais des gens qui proposent à la fois des reprises ou en tout cas des morceaux d'inspiration tels que des groupes comme Undertones ou XTC. Donc un programme très punk avec à la fois des compos et des reprises.
Très bien. Et le groupe suivant, c'est des Lyonnais aussi, toujours dans la scène locale, Trigone
Plus.
Oui,
alors le groupe suivant, c'est Trigone Plus, un groupe lyonnais qui tourne beaucoup, de plus en plus, qui a sorti deux albums, qui propose ben, un rock aussi assez bien construit, et surtout des textes qui sont à la perfection et avec beaucoup d'énergie. Ils ont fait un de leurs morceaux phares sur scène aussi, c'est une reprise de Jacques Brel, une adaptation d'Amsterdam, qui dégage beaucoup d'énergie. Alors là, ils ont sorti un dernier album qui s'appelle Sans consentement, et donc ils vont nous proposer de larges extraits de cet album-là.
C'est Trigone Plus, c'est l'un des groupes de rock qui arrive. C'est toujours, on a l'impression que c'est toujours un exploit à faire du rock en français. C'est rare et c'est toujours agréable à écouter, je trouve.
Oui, et à ce niveau-là de perfection, c'est vraiment très 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 riche, oui, très riche.
Et puis, on arrive à la tête d'affiche, comme on dit, c'est Laura Cox. Ça envoie du lourd, encore une fois, niveau rock.
Oui, alors Laura Cox, c'est quelqu'un qui s'est fait connaître sur Internet, sur YouTube, dans les années 2005-2008, en faisant des tutos et puis des covers de solos de guitare des grands guitaristes qui l'ont inspirée. Hein. Alors, je sais qu'elle a eu des covers qui ont été vus plusieurs millions de fois. Et puis, à la suite de ça, elle a décidé de monter sur scène, d'écrire ses propres morceaux et puis de jouer sa musique. Alors, c'est effectivement assez rock. C'est quelqu'un qui est beaucoup inspiré par des artistes comme ZZ Top, Lynyrd Skynyrd, AC/DC, ou Sheryl Crow. Et donc, qui propose un rock avec beaucoup d'énergie. C'est une jeune femme qui a un bon tempérament, on va dire, sur scène.
Ouais.
Et effectivement, ça envoie du lourd. C'est une prestation technique aussi, avec beaucoup de, qui donne envie de bouger, quoi, on va dire.
Très énergique, ouais. Et puis avec un talent à la guitare qui est quand même impressionnant. Excellente guitariste, Laura Cox, franco-britannique. À un moment, j'ai cru qu'elle était américaine, mais non, c'est une
française. En fait, non, oui, elle est franco-britannique parce que son père, je crois, est britannique.
Mmh.
Et donc, Laura Cox, c'est son véritable patronyme. Beaucoup de gens se posent la question, mais ouais, c'est son véritable patronyme. Et donc, alors, c'est vrai qu'elle a un jeu de guitare qui est quand même assez exceptionnel. Ça, il faut le dire.
Et donc à découvrir sur la scène du festival Busen Pop le 29 août. Comment est-ce que il y a déjà un système de réservation qui est mis en place de pré-vente sur votre site internet pour
oui,
prendre
alors,
ses places?
La volonté du festival c'est d'être abordable pour un maximum de gens qui souhaitent venir sur ce festival. Donc on a une billetterie en ligne.
Mmh.
Qui est accessible à partir du site internet du festival, hein, qui est tout simple, www.buisenpop.fr. Et à partir de là, donc, on a une billetterie qui propose des entrées à partir de 10 euros pour le plein tarif, avec des tarifs réduits pour les moins de 18 ans et puis avec une gratuité complète pour les moins de 12 ans. Donc on encourage vivement les gens à aller réserver en ligne, sachant que le jour du concert, les entrées seront sur place à 15 euros. Donc c'est beaucoup plus intéressant de réserver le plus tôt possible.
Il vaut mieux réserver tout de suite. Très bien, on a hâte en tout cas de découvrir un beau festival cet été au Val-d'Oin et de pouvoir enfin faire la fête, voir des artistes sur scène. Merci beaucoup Jean-Louis Chanel de nous en avoir parlé.
Rajouter, c'est que donc le festival se déroule dans le parc Pichat, qui est donc situé au Bois de Moin, et que ce parc a été complètement rénové l'année dernière. Donc il propose vraiment, c'est un lieu absolument magnifique à découvrir, notamment à l'occasion du festival.
Très bien, rendez-vous au parc Pichat. Merci encore une fois Jean-Louis Chanel. On garde la date donc du 29 août pour ce festival. On va se quitter avec Trigone Plus. Tiens, on écoutait Laura Cox avant. On va découvrir les Lyonnais maintenant.
Eh bien, merci à vous et bonne journée.
Bonne journée, au revoir.
Merci.
Enfant de prostration, de mes démons me caresse l'idée, prise à la volée, de charmer le céleste dans l'attente d'un geste. Mais le temps lui s'enfuit, puis la prière s'oublie. Lorsque pris de stupeur, on m'embrase le cœur, se consume le doute, dessine ma route. Je me sens courtisé, je me vois appelé par-delà tout mon être à devenir prêtre.
t'inquiète. Quand sur cette fidèle se figea ma silhouette. La super vieille amie susurre qu'on s'est autrui.
Plus sur Calade, groupe lyonnais qui est donc programmé pour le festival Buisen Pop ce 29 août au Val d'Ouin.
Ensemble sur Calade.
Ensemble sur Calade.
Ensemble sur Calade.
Allez, tout de suite, on a rendez-vous avec le prof Patrick sur Calade.
Ensemble sur Calade, c'est évidemment sur Calade.
On retrouve tout de suite le prof Patrick sur Calade pour sa chronique hebdomadaire, l'analyse des conséquences économiques de la crise. Bonjour prof.
Salut Mathieu, tu vas bien ?
Ça va bien et vous ?
Allez, je vais te faire souffrir une dernière fois pour ces conséquences économiques de cette fameuse crise provoquée par ce fameux virus. Alors la semaine dernière, je ne sais pas si tu te souviens, on a parlé d'un truc qui a fait mal aux neurones hein, quand même, d'accord ? C'était le rôle de la Banque Centrale Européenne. J'ai longuement expliqué tout un tas de choses, son activité et ce qu'elle avait fait ces 10 dernières années pour soutenir l'activité économique. D'accord. On en était resté là, donc je rappelle en simplifiant, elle déverse beaucoup d'argent de façon indirecte à destination des banques commerciales pour les inciter à faire des prêts et à soutenir l'activité en faisant des prêts, puisque ça va inciter les particuliers et les entreprises à consommer et investir. On a dit que cet argent déversé, qu'on appelle le quantitative easing, elle avait recommencé à en programmer à partir de novembre 2019, je fais ça un petit peu de mémoire, à hauteur de 20 milliards d'euros par mois. Donc on avait un budget sur 2020 prévu de 20 x 12, 120 milliards d'euros. Ce qui s'est passé, c'est que dès mi-mars, la Banque Centrale Européenne a été ultra réactive, c'est-à-dire mi-mars, c'est quand on a été confiné, elle a décidé de relancer, ou plutôt de renforcer énormément ce programme de quantitative easing, puisqu'elle rajoute en plus des 120 milliards prévus, elle rajoute 750 milliards d'euros. Ce qui nous fait quand même un budget mensuel qui passe de 20 milliards à 117 milliards d'euros par mois. Alors c'est très bien, c'est très réactif. Après, est-ce que ce sera vraiment efficace ? On a dit la semaine dernière hein, l'efficacité, je dirais, moyenne hein, de ce programme. Donc on aurait beaucoup de choses à dire sur qu'est-ce qu'elle aurait pu faire. Mais bon, ça demande de plus de temps et peut-être que je le ferai dans d'autres lieux, dans d'autres émissions. Voilà ce qu'il en est. Alors tu vas me dire, c'est un peu court. D'habitude, je te saoule avec des chroniques interminables. Mais t'inquiète pas, j'avais prévu autre chose, Mathieu. J'avais prévu autre chose parce que figure-toi, je suis un auditeur fidèle de Radio Calade. Eh oui. Et donc, j'ai écouté ta quotidienne vendredi dernier. Donc, le vendredi, c'était le 26 juin, si je dis pas de bêtises. Mmh. Et dans ta quotidienne de vendredi, il y a mon cher collègue Pif Paf, qui fait sa chronique à peu près à la même heure, 12h30, qui nous a parlé de la Convention citoyenne pour le climat.
Ouais.
Alors ça, c'était très intéressant. Cette Convention citoyenne pour le climat, elle avait une mission, elle a travaillé pendant 9 mois. Ce sont des citoyens tirés au sort de façon à ce qu'ils soient représentatifs de la population française. Et ils avaient une mission, c'est faire des propositions pour que la France puisse atteindre une diminution de 40% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. D'accord. Alors moi déjà ça m'a parlé pour une raison que je vais t'expliquer. Tu le sais Mathieu, avec mon confrère Franck Bonnet, je fais une émission mensuelle sur Radio Calade qui s'appelle Poker Menteur. Tous les troisièmes jeudis du mois à 20h, rediffusée le samedi qui suit et que vous pouvez, chers auditeurs, écouter en podcast. Cette émission, l'émission de juin que nous avons fait de Poker Menteur, est consacrée à l'anarchisme. Alors l'anarchisme, c'est quoi ? C'est un mouvement politique qui est aujourd'hui très oublié hein, et pourtant qui a été très important dans l'histoire des pays occidentaux. À la fin de l'émission, on s'est quand même demandé qu'est-ce qui restait de l'anarchisme dans notre monde moderne. Eh bien, ce qu'il en reste, ce sont des pratiques et des valeurs, d'accord ? Des pratiques qui illustrent des valeurs. Et cette convention citoyenne, Mathieu, est un parfait exemple de pratique qui illustre des valeurs. La pratique, c'est quoi ? C'est une pratique qui consiste à confier à des citoyens lambda, d'accord, mais sociologiquement représentatifs, comme je l'ai dit, de la société française, la charge, alors j'exagère un peu, de légiférer, mais au moins de proposer de quoi légiférer. C'est l'idée qu'il est possible de court-circuiter la phase, ben tu sais quoi, on va nommer un représentant qui est bien entendu plus compétent que nous, et nous, petits Français de base, et on va le laisser décider hein, de notre destin. La pratique, c'est de faire de la démocratie directe, c'est ça en fait. Et c'est montrer qu'on peut se passer au moins sur certains projets de la démocratie représentative. Les valeurs qui fondent cette pratique, c'est celle de l'anarchie. Voilà, c'est-à-dire prenons en main notre destin, ne nous soumettons pas volontairement à un maître, notamment à l'État, qui est le maître absolu, ou à nos représentants politiques. Donc ça a attiré mon attention, mais pour autant, l'essentiel de la chronique de Pif Paf, vendredi dernier, elle n'est pas là. Pif Paf, en fait, a longuement présenté les réactions outrées d'une grande partie des médias et des forces politiques suite à la publication des propositions de cette Convention citoyenne pour le climat. Mmh. Alors, les réactions outrées, il y en a beaucoup à droite, hein, du côté des Républicains. Il y en a à l'extrême droite. Mais il y a aussi un petit peu au PS avec le fameux Julien Drey. Je ne sais pas si tu connais Julien Drey. En fait, je dis le fameux parce que son titre de gloire principal, c'est qu'il aurait été un des modèles du personnage principal de la fameuse série Baron Noir, qui est une série géniale pour découvrir ce qu'est le monde politique. Politique français. Beaucoup de réactions très agressives. Les médias traditionnels ne sont pas en reste. Hein. Les exécutions en règle ont déferlé. Il y a BFM, CNews, Canal+, bref, tous ceux qui nous indiquent jour après jour comment on doit penser. À ça, vous pouvez ajouter quand même quelques militants écolos qui disent « Ah non, les mesures sont trop frileuses », mais enfin, ces militants écolos, on les entend beaucoup moins sur les ondes et chaînes télé que ceux que j'ai cités. Et voilà même qu'on nous présente cette convention comme un ramassis d'idéologues, comme, j'ouvre des guillemets, des Khmers verts. C'est Philippe Calvi, dans son émission sur Canal+, qui les a traités de Khmers verts. Alors tu me connais Mathieu, mon côté prof passe par là, et je vais donc devoir expliquer à quoi fait référence cette expression Khmer vert. Cette expression, elle fait référence aux Khmers rouges, qui au Cambodge, dans les années 70, ont exterminé pas moins de 20% de la population du Cambodge. Ça fait 1,7 million de personnes. Alors oui, tu as bien entendu, et chers auditeurs, vous avez bien entendu, Philippe Calvi compare les membres de la Convention citoyenne à des exterminateurs du même niveau que les nazis. Tout ça parce qu'il n'est pas d'accord avec leurs propositions. Extraordinaire, hein ?
C'est quand même balèze.
Juste une remarque en passant, hein, Mathieu. Moi, quand j'entends ce niveau d'intolérance, perso, j'ai très très peur à l'idée que M. Calvi ou ses amis arrivent au pouvoir. Parce que dans ce cas-là, j'aurais très peur pour mes fesses de petits Français qui ne pensent pas comme lui.
Ouais.
Alors, outre ce que je viens de présenter en termes de réaction violente, quelle leçon on peut tirer de ce déchaînement de critiques ? À quoi ça te fait penser, Mathieu ? Qu'est-ce que tu en tires comme conclusion ?
J'ai l'impression c'est que quand il y a quelque chose de nouveau, on le critique automatiquement. On n'aime pas quand ça bouge.
Ouais, c'est ça, ouais. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Et pour moi, je veux même un peu plus loin. Je trouve que c'est très bon signe, en fait. Ces réactions violentes sont très bons signes parce que si ça avait été des réactions unanimes, unanimement positives, j'aurais été un petit peu inquiet. Parce que ça aurait été un robinet d'eau tiède. Or, il s'agit de baisser, je reviens à leur mission initiale, hein, arriver à diminuer les émissions de gaz à effet de serre en France de 40% d'ici à 2030. Vous croyez vraiment, chers auditeurs, qu'on va y parvenir en se faisant des bisous et des caresses ? Mais c'est une blague, c'est une blague. On n'y parviendra qu'avec des mesures fortes, contraignantes, des mesures qui vont forcément déplaire à un certain nombre de catégories professionnelles, de catégories sociales. Notamment ceux qui ont été les derniers à prendre conscience de l'ampleur du choc que notre activité économique a provoqué toutes ces décennies et tout le XXe siècle sur notre écosystème. Ceux qui ont été les derniers à admettre que si on continue comme ça, notre société va se déliter. Se déliter comment ? Ben moi, je conseille de regarder un film qui s'appelle Elysium, d'un réalisateur qui s'appelle Neil Blomkamp. C'est un film de science-fiction qui annonce très très bien un peu ce que pourrait être notre société dans quelques décennies si on laisse les choses faire. Alors ceux-là, de qui je parle quand je parle de ceux-là, bah, je parle des Calvi justement, hein, des BFM, des CNews et de tous les autres qui défendent les intérêts de qui jour après jour. Je vais faire mon marxiste. Ils défendent les intérêts de ceux qui globalement tiennent les rênes de notre société et qui ont l'intention de ne rien lâcher. D'accord ? Alors deux exemples concrets pour illustrer ce qu'il en est quand ces gens-là, les Calvi et compagnie, sont au pouvoir. Premier exemple, franco-français. Entre 2015 et 2018, on a eu la stratégie nationale bas carbone. Donc, ce sont des objectifs de diminution d'émissions de CO2 pour la France qui avaient été fixés. Eh bien, il faut savoir qu'entre 2015 et 2018, on n'a pas réussi à atteindre nos objectifs. C'était des objectifs de diminution de 2,2% par an. On n'a fait que 1%. Bref, on a pris du retard. Premier exemple, mais ça, c'est des chiffres, ça endort tout le monde. Donc, je vais vous donner un exemple un peu plus spectaculaire. En Australie, janvier 2020. Tu te souviens, en Australie, janvier 2020, ce qui s'est passé ?
Les incendies.
Des incendies absolument gigantesques. Alors, je vous rappelle qu'en Australie, en janvier, c'est l'été. Des incendies géants d'une ampleur jamais vue, parce qu'il y a toujours des incendies hein, en été en Australie, mais d'une ampleur jamais vue. Eh bien, devinez qui était au pouvoir en Australie ? Ben, c'est les amis de Calvi, de BFM, CNews et compagnie. Ils étaient au pouvoir depuis 2 ans. Et ils tiennent le même discours que M. Calvi sur la question, hein, ou Haro sur les Khmers verts, etc. En mars 2019, le responsable national des pompiers australiens a écrit à ce pouvoir australien pour les prévenir que si rien n'était fait, les incendies d'été suivants seraient hors de contrôle. Devine ce qu'ils ont fait ?
Rien.
Ben voilà, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait, il n'y a pas de souci. Ils ont laissé détruire le pays de leurs enfants, parce que pour eux, conserver leur confort aujourd'hui, c'est plus important que le confort de leurs enfants et de leurs petits-enfants demain. Ouais. Conclusion. Il est peut-être temps de poser sur la place publique la question de la responsabilité historique de ces gens-là, les Calvi, Bolloré, CNews et compagnie, vis-à-vis de nos enfants et nos petits-enfants, de ces gens-là qui ont amené notre système là où il en est aujourd'hui. J'en ai terminé sur une note un peu vigoureuse, mon cher Mathieu.
Un peu vigoureuse, effectivement.
Voilà.
Merci, prof Patrick. J'ai beaucoup aimé cette rubrique et le message qu'il y a derrière. Ça me plaît bien, ça.
L'économie... Ce n'est pas que de la technique. L'économie mène inévitablement à une question des choix, donc la question de la politique. Et les choix, généralement, ils ne peuvent pas satisfaire tout le monde. Donc, de toute façon, des mesures politiques proposées, normalement, doivent faire des insatisfaits. Après, c'est un débat, hein, y a pas de souci. On peut débattre sur le fond. Mais les insultes du genre Khmer vert, là, c'est pas possible.
Ouais, c'est quand même assez ridicule. Merci encore une fois.
Merci Mathieu, merci chers auditeurs.
Et donc, très bel été, on se retrouve la saison prochaine.
Oui, passe un bon été Mathieu, passez un bon été chers auditeurs.
Ensemble sur Calade, c'est évidemment sur Calade.
Tiens, avant d'aller faire un tour en forêt avec notre prochain invité, eh bien, je vous propose une musique qui va peut-être faire débat. Tiens, c'est HK et les Saltimbanques sur Calade.
Raconter des salades, disent que la terre est en danger, disent que notre planète est malade. Ils me font flipper ces écolos, à nous dire qu'on va tous crever. Faudrait qu'on roule tous à vélo, et pourquoi pas voter Beauvais. Moi je préfère rouler en humeur, manger des sandwichs OGM. Climat fond, 300 à l'heure, total GPS, GSM. Vu qu'on doit tous y passer, alors allons-y tous en même temps. Faisons pas les choses à moitié, profitons-en. Niquons la planète, niquons la planète, niquons la planète, niquons la planète. I have a dream, j'ai fait un rêve d'une guerre mondiale nucléaire où les enfants d'Adam et Ève s'entreturaient comme des frères. I have a dream, oui j'ai rêvé d'un tsunami, tremblement de terre qui détruirait l'humanité, nous enverrait tous à l'enfer. Faisons péter la couche d'ozone, rasons tout, faisons place nette. Ne laissons surtout pas nos mômes le plaisir de payer nos dettes. I have a dream, je vous le dis, I have a dream, alléluia. Et quand viendra ce jour béni, prions pour voir ça. Amen. Niquons la planète, niquons la planète, niquons la planète.
HK et les Saltimbanques sur Calade avec ce titre un peu fort quand même.
Ensemble sur Calade.
On retrouve tout de suite notre invité qui s'appelle Kevin Basile, qui est membre de l'association Fibois et qui organise un événement chaque année qui s'appelle Vie ma vie de bûcheron. Bonjour.
Bonjour.
Alors, le métier de bûcheron et les métiers de forêt, on a peut-être quelques stéréotypes dans la tête et quelques clichés avec, j'imagine, des Canadiens avec des chemises à carreaux qui vont couper du bois avec leur hache. Mais les métiers de la forêt, c'est peut-être pas que ça aujourd'hui.
Non, tout à fait, effectivement. Le cliché du bûcheron avec la barbe, la chemise à carreaux et la hache est encore assez présent, mais aujourd'hui, à travers les mamans Vie ma vie de bûcheron, justement, on a pour ambition de montrer au public que le métier de bûcheronnage a bien évolué, dépassé ces clichés-là, et puis de montrer aussi qu'en forêt, ben, il n'y a pas que les bûcherons qui travaillent, puisqu'on a différents corps de métiers qui s'attellent à la gestion des forêts du Beaujolais.
Et donc, cet événement Vie ma vie de bûcheron, ça a commencé il y a déjà quelques années. C'est quoi un petit peu est-ce que vous pouvez nous expliquer la genèse de ce projet ?
Tout à fait. L'événement Vie ma vie de bûcheron existe depuis 2015 en région Auvergne-Rhône-Alpes. Il est à l'initiative du parc naturel régional des Bauges qui a souhaité développer des actions de sensibilisation auprès du public pour faire découvrir la gestion forestière et les métiers qui participaient à cette gestion forestière-là. Et donc, au fil des années, cet événement a été repris dans d'autres territoires forestiers d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et pour la deuxième année, cette année dans le Beaujolais, nous menons cette opération.
Et derrière l'événement, il y a une association, c'est l'association FIBOIS, c'est ça ?
Exactement. Oui, tout à fait. Vie ma vie de bûcheron en Beaujolais est porté par trois partenaires, par FIBOIS 69, par l'Association Rhodanienne des entreprises forestières, qui est un réseau de professionnels forestiers du Rhône, et par la Charte forestière du Beaujolais. Mmh. Donc ces trois entités s'attellent à mener et à faire découvrir les forêts du Beaujolais et les personnes, les professionnels, je dirais, qui entretiennent ces forêts-là et qui les gèrent.
Et donc justement dans le Beaujolais, là les journées Vie ma vie de bûcheron, il y en aura plusieurs, c'est les mercredis du mois de juillet et du mois d'août, c'est ça ?
Tout à fait, donc tous les mercredis matin, du 8 juillet au 5 août, on donne rendez-vous au public de 9h à 11h30 sur 5 lieux différents.
D'accord, dans les forêts du Beaujolais. Alors qu'est-ce qu'on fait pendant ces matinées ? Qu'est-ce qu'on va découvrir justement ce que vous nous disiez, des corps de métiers différents. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme corps de métier dans les forêts ?
Alors, nous avons donc le sylviculteur, qui est l'activité qui consiste à planter et à effectuer les premières étapes d'entretien de la forêt. Donc le sylviculteur, c'est vraiment lui qui a la genèse de la forêt et qui guide la forêt dans ses premières années. Après, nous avons le métier de bûcheron, donc manuel, mais nous avons également des métiers de conducteur d'engins forestiers, donc conducteur d'abatteuse, donc qui est la version mécanisée du bûcheronnage manuel. Également le débardage, qui est l'activité qui consiste à, une fois les bois coupés, les sortir de la forêt. Et puis également, de manière plus générale, le métier de gestionnaire, qui est la personne qui s'occupe de planifier les coupes, planifier les plantations, planifier les différentes opérations de gestion en forêt. Donc on essaie, à travers les cinq dates prévues dans le Beaujolais, de montrer ces différents corps de métier au public.
D'accord. Et donc, au cours des journées, ça se passe, j'imagine, des balades dans les bois ou aller voir peut-être des zones particulières où il y a des travaux dans la forêt, je sais pas.
Tout à fait. Donc, on essaie de trouver à chaque date un chantier différent pour montrer une facette de la gestion forestière différente au public, pour montrer du coup les différentes opérations de gestion qu'on peut retrouver en forêt et qui les réalise. Donc on donne rendez-vous au public à un point stratégique et on se rend après ensemble en forêt sur le chantier pour découvrir le chantier et pouvoir échanger avec le professionnel présent sur le terrain.
Mmh. Et les enjeux des forêts aujourd'hui, ils sont multiples. C'est lesquels ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer les enjeux qu'il y a autour des forêts aujourd'hui ?
Aujourd'hui, il y a un enjeu fort qui est le réchauffement climatique. Mmh. Nous avons aussi un enjeu, la forêt, c'est une ressource qui nous met à disposition après une bonne gestion du bois, donc un enjeu de production de bois. Mmh. Et les forêts, c'est également un espace d'accueil du public. Et puis, c'est également un lieu où ben, se mêle une biodiversité riche et diversifiée qu'il est important de préserver.
Et donc tous les personnes qui travaillent au quotidien, j'imagine que ouais, c'est des enjeux qui doivent être réfléchis. Quand on a coupé un arbre, on coupe pas n'importe lequel. Il y a des projets qui se font peut-être sur le long terme dans les forêts.
La forêt, de toute manière, c'est un écosystème pour lequel on réfléchit sur du long terme. Et les professionnels qui interviennent sont des passionnés. Et la forêt donc est leur lieu de travail. Et la forêt, c'est aussi un patrimoine qu'ils s'engagent à gérer, à entretenir et à transmettre aux générations futures. Donc chaque intervention qui est menée en forêt, elle prend en compte de la meilleure manière des possibles l'enjeu production de bois, le réchauffement climatique, la préservation de la biodiversité. Les professionnels sont bien conscients de la richesse que représente la forêt à l'échelle nationale. Et ils sont les garants de cette forêt-là et d'une bonne gestion.
Ouais. Donc, oui, c'est des enjeux assez capitaux. Et puis, tout ce qui va être biodiversité, la faune et la flore qui vit dans ces bois-là, j'imagine qu'il y a une cohabitation qui doit se mettre en place entre les personnes qui travaillent au quotidien et puis cette faune et cette flore.
Oui, tout à fait. On essaie de faire en sorte que les pratiques de gestion menées dans les forêts favorisent et préservent la biodiversité. Donc après, la biodiversité, elle est variée, elle dépend des arbres présents sur la parcelle, elle dépend de la nature du sol, et puis les pratiques de gestion peuvent plus ou moins favoriser l'apparition d'une biodiversité particulière.
J'imagine qu'il y a différents types de forêts en fonction des territoires. Dans le Beaujolais, on est sur quel type de bois en règle générale? Je sais qu'on a un sol très riche. Est-ce qu'on a aussi une végétation très riche?
Oui, dans le Beaujolais, effectivement, on a un sol qui était pauvre à l'époque pour l'agriculture et donc les différentes politiques qui étaient visionnaires à l'époque pallier à l'exode rural, a été décidé de développer la plantation de forêts, puisque le sol du Beaujolais était pauvre pour l'agriculture, mais riche pour la plantation d'arbres. Et notamment, dans le Beaujolais, on a une essence assez emblématique qui est le douglas. Donc aujourd'hui, plus de 50 à 60% de la forêt du Beaujolais est recouverte par des parcelles forestières issus de douglas et qui sont gérés en futaie régulière.
D'accord. Donc tout ça, toutes ces informations sur les forêts, sur les personnes qui travaillent au quotidien, on pourra le découvrir au cours de cet événement Vie ma vie de bûcheron. Où est-ce qu'on trouve les informations pour pouvoir y participer?
Alors j'invite le public qui souhaite participer pour avoir des informations supplémentaires, soit à nous contacter par téléphone, donc au 04 74 67 21 93, ou bien directement en allant sur notre site fibois69.org.
Parfait, on a toutes les informations. Merci beaucoup Kevin Basile de nous en avoir parlé, et puis on vous souhaite des beaux événements, des belles rencontres autour de ce projet Vie ma vie de bûcheron.
Eh bien merci, bel été à vous et j'espère vous croiser cet été dans notre massif du Beaujolais.
Avec grand plaisir, au revoir, bonne journée.
Au revoir, merci.
Ensemble sur le Calade.
Allez, il va bientôt être l'heure de nos pages d'information à 13h avec le journal de RFI et le journal local. Puisqu'on parlait des forêts et de bois, je vous propose juste avant une petite pause musicale. Voici Otis Redding et Carla Thomas qui nous chantent Knock on Wood, taper sur du bois tout simplement.
22h.
Ensemble sur Calade.
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 Ensemble sur Calade, c'est en direct du lundi au vendredi de 12h à 14h, évidemment sur Calade.
Et bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur Calade dans cette seconde partie d'émission de Ensemble sur Calade. On a rendez-vous avec Georges Botton pour sa rubrique Mai, la 11e rubrique de jazz traditionnel. On découvrira un musicien du Beaujolais, ensuite Stéphane Mauchamp, joueur de cornemuse. Mais d'abord, on parle cinéma et on en parle avec Vincent Pourageau de l'émission Cinérama. Bonjour.
Bonjour Mathieu.
Alors l'actu ciné en ce moment elle est un petit peu mouvementée, je pense que c'est le moins qu'on puisse dire.
Oui, effectivement, les salles ont réouvert la semaine dernière. Alors, c'est 90% en fait du parc de salles sur un total de 6000 écrans en France qui a pu réouvrir et accueillir des spectateurs. Alors, selon les exploitants, il y a près d'1 million de tickets qui ont été vendus en 7 jours. Alors, c'est bien moins finalement que ce qu'ils font habituellement dans une semaine habituelle à ce moment-là. Mais dans ce paysage de reprise, le plus grave pour eux, c'est que les Américains fichent le camp complètement. Alors, ceux qui attendaient le film de Christopher Nolan, Tenet, le 22 juillet, ils vont devoir patienter jusqu'au 12 août. Il y avait Inception, du même réalisateur, qui était prévu le 29 juillet. Il est prévu le 29 juillet, mais il était prévu un peu avant. Il y a Mulan, des studios Disney. Alors, ça, c'est une grosse locomotive, parce que ça emmène les enfants et toute la famille à l'intérieur des salles de cinéma. Ce Mulan va passer l'été un peu au frais, parce qu'il ne sera pas sur les écrans avant le 19 août. Et puis il y a même Bob l'éponge. Alors ça, j'en discutais avec un exploitant. Bob l'éponge, lui, va carrément ficher le camp et il sera en VOD à partir de 2021. Donc les distributeurs se sont refusés à l'exploiter en salle. Et là aussi, ça pose un problème à certains exploitants qui avaient prévu de ramener de jeunes spectateurs dans leur salle. Alors ça, c'est le moment pour les productions françaises finalement, et surtout les comédies, d'arriver sur les écrans, parce que l'été, c'est aussi traditionnellement un moment où il y a des comédies. Bon, il y en a tout le temps, c'est quand même le genre le plus cinématographique. Mais donc, il y a des comédies françaises qui vont arriver sur le planning estival. Il y a Tout simplement Noir de Jean-Pascal Zadi. Je vous avoue que je ne sais pas quoi en penser. Ça sort le 8 juillet. Il y a Divorce Club, ça je me suis refusé à le voir, de Michael Youn, ce sera la semaine suivante, parce que j'avais l'occasion de le voir, mais j'ai préféré, j'avais vu le précédent et j'avais pas du tout été convaincu. Et puis, par contre, il y a un film qui s'appelle Felicita, c'est un premier film, et c'est toujours une comédie, avec Pio Marmaille, donc ça ce sera la semaine du 14 juillet. Et puis à noter aussi, alors c'est pas une comédie, mais il y aura le film de François Ozon, Été 89, je crois, je sais plus, tiens, j'ai un trou. Mais voilà, qui va sortir aussi cet été. Je dirais que en ce mois de juillet, si on veut aller dans les salles de cinéma, ça va être pour voir davantage du film d'art et essai, des reprises. Il y a David Lynch qui va être repris. Il y a d'autres films qui vont ressortir. Et puis aussi, des films d'auteur.
J'ai l'impression que c'est complètement inversé du coup. Est-ce que habituellement l'été c'est plutôt du grand public, du blockbuster et ce genre de film, et l'art et d'essai se calme un petit peu, je crois, pendant cette période?
Alors il y a toujours du film d'art et d'essai, parce qu'ils savent jamais trop comment le sortir. Sinon, il y a certains films, ils savent qu'ils vont pas faire plus de spectateurs finalement l'été que l'hiver. C'est comme ça, parce qu'ils drainent des habitués ou des curieux. Mais c'est vrai que l'an dernier, notamment en 2019, le mois de juillet avait été le plus gros mois d'exploitation pour les cinémas avec Le Roi Lion. Donc l'été, c'est soit les films de super-héros, c'est les films pour enfants, les films d'animation, c'est beaucoup d'entrées, parce que on croit souvent que l'été, puisqu'il fait chaud, on est tout le temps dehors. Non, c'est faux, on va aussi au frais aussi,
dans la fraîcheur des salles de cinéma. Un mauvais coup encore une fois pour les exploitants, surtout de salles de cinéma, c'est eux qui vont être les premiers touchés.
C'est sûr, mais bon, voilà, ils vont faire des efforts. Alors, il y en a certains, je pense que c'est les plus petits cinémas qui vont essayer d'attirer les spectateurs avec des films, des reprises, et puis d'accompagner les films, voilà, avec soit des débats, je ne sais quoi. Enfin, les petits cinémas, je pense, ont moins de soucis à se faire que les gros cinémas, que ceux qui ont une douzaine de salles. Ceux-là, ils ont besoin des blockbusters pour faire du chiffre, malheureusement.
C'est effectivement ce que fait notre cinéma 400 coups, cinéma d'art et d'essai de Villefranche, qui propose Apocalypse Now en ce moment, la director's cut d'Apocalypse Now au cinéma local.
Ah ben voilà, oui. Très bien. Ah mais j'avais même pas vu dans le programme. J'ai vu qu'il sortait Les Parfums, alors que j'ai pas pu voir. Hein. C'est un film avec Emmanuel Devos qui sort ce mercredi 1er juillet. Et puis il diffuse L'Ombre de Staline, dont on va parler dans l'émission. C'est pas moi qui l'ai vu, mais voilà, il paraît que c'est un très très bon film, un bon thriller politique.
Et je crois que vous vouliez également nous parler d'un film en particulier.
Oui, alors il passe pas à Villefranche, mais c'est Brooklyn Secret de Isabelle Sandoval. C'est un film qui raconte l'histoire d'une immigrante philippine transgenre et sans papier à New York et qui essaie d'obtenir la nationalité américaine sous l'administration Trump. C'est un peu le résumé, c'est le fil du récit. Et c'est une partie de l'histoire de la réalisatrice qui a fait sa transition du genre masculin au genre féminin. Et donc elle s'est retrouvée en fait transgenre et immigrée dans un pays gouverné par Trump et elle a ressenti angoisse et inquiétude. Et donc ce film, qui est son troisième long métrage, est la traduction de cet état d'esprit. Alors au niveau une histoire d'amour un peu compliquée, mais une illustration d'une histoire transgenre dépouillée de spectaculaire ou de pathos, avec une féminité sereine. La mise en scène, elle est vraiment discrète, sans artifice, avec une belle image. Enfin voilà, c'est un film doux, un film sensible, et puis voilà, c'est même pas la question du transgenre, mais en tout cas, c'est l'acceptation du transgenre. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant, et en plus, bien, c'est porté par une réalisatrice qui l'est. Voilà.
Et donc, c'est Brooklyn Secret ?
Oui, de Isabelle Sandoval. Donc, elle est d'origine philippine.
Très bien. Donc, le film à voir, sûrement qui sera dans nos salles prochainement.
Peut-être les 400 coups à prévu, mais c'est peut-être pas le cas. Voilà, parce que quand on n'a pas beaucoup de salles, eh bien, on est obligé de faire des choix.
Et oui. Merci beaucoup, Vincent Pourageau. On vous retrouve donc à 16h dans Cinérama et vous nous parlerez. Donc, vous nous avez dit de L'Ombre de Staline, entre autres.
Alors, il y aura L'Ombre de Staline, il y aura un film qu'on a, il y a Mon nom et Clitoris, qui est un documentaire.
Ah oui,
voilà, de quoi on va parler. Moi, je vais parler là du film dans Brooklyn Secret. Mm-hmm. Et puis, j'ai oublié, il y avait un film de démonologie. On va commencer par ça, parce que c'est un film à surtout pas voir. mais voilà, j'ai oublié le titre. Demon Inside, je crois. Voilà, oui, c'est ça. Ouais.
C'est Demon Inside. Il y a souvent des films à ne surtout pas voir aux 400 coups.
J'oubliais quand même peut-être le plus important. Il y a la ressortie d'Elephant Man de David Lynch. Il y a un certain nombre de cinémas qui vont le projeter. Et donc, on en profite pour faire un blind test autour de ce réalisateur américain qui est vraiment sans doute un des plus appréciés, qui est autant apprécié par les spectateurs que par la critique. Ce sera très facile le blind test parce que ces films sont aisément reconnaissables. Il en a fait des tellement variés que voilà. Mais bon, voilà, ça vaut le coup de jouer. 5 extraits à découvrir.
Très bien, le fameux blind test de cinéma. Je disais, il y a souvent des films à ne surtout pas voir aux 400 coups. Je me suis trompé, bien évidemment. C'est dans l'émission Cinérama, cette rubrique sur les films qu'il ne faut pas aller voir au cinéma. On s'amuse bien dans ces moments-là, je trouve.
Ça nous arrive effectivement de parler des films qu'il ne faut pas aller voir, mais la majorité du temps, on parle quand même des films qu'on aime parce que c'est ce qu'il y a de plus simple.
Très bien, merci beaucoup. Donc, je rappelle, rendez-vous à 16h dans Cinérama. Merci beaucoup, Vincent Pourageau. Et puis. Ça va être la fin de cette rubrique puisque cette semaine c'est la dernière de Ensemble sur Calade. Donc je vais vous souhaiter un bel été.
Et ben moi de même. Et puis c'était un plaisir de faire cet après confinement. Même je me souviens plus si on était pendant le confinement. Oui, on y était pendant le confinement aussi.
Oui. La même émission avec un autre nom.
Oui oui.
C'est ça. Et ben très bel été encore une fois. Merci beaucoup. Et puis au plaisir de vous retrouver sur nos ondes.
Oui, à la rentrée ou pendant l'été, parce qu'il y aura une version de Cinérama dans l'été et Calade le diffuse.
Cinérama continue tout l'été, parfait. Très bonne fin de journée.
Oui, à bientôt.
À bientôt, au revoir. On va se quitter avec Catherine. Là, j'ai l'habitude de passer des musiques qui parlent de films après cette petite rubrique tous les mercredis. Ben, Catherine chante un titre qui s'appelle Le film, tout simplement. Philippe Catherine sur Calade.
Mec, qui a fait le casting? Qui donc a fait le track listing? Qui du chef opérateur? Sans parler du sound designer. C'est le plus beau film du monde, celui que je vois devant moi. Toujours un nouveau casting, toujours un nouveau track listing. Pour l'assemblage de couleurs, c'est toujours toi qui es cadreur. Je ne suis qu'un acteur parmi les autres acteurs, ne suis qu'un spectateur parmi les spectateurs. Est-ce le plus beau film du monde, celui que tu vois devant toi? Pourquoi suis-je dans le casting? Pourquoi tu es dans le casting? Qui est le storyteller? Sûrement celui qui connaît l'heure. C'est le plus beau film du monde, celui qu'on peut voir devant soi. Je ne suis qu'un acteur parmi les autres acteurs, ne suis souvent figurant parmi les figurants. Je ne suis qu'un acteur parmi les autres acteurs, et plus souvent figurant parmi les figurants.
Voilà l'univers étrange de Philippe Catherine sur Calade.
Ensemble sur Calade.
Ensemble sur Calade.
Ensemble sur Calade.
Et bonjour Georges, on te retrouve pour ta rubrique quotidienne, mais la 11e, que nous as-tu préparé aujourd'hui Georges?
Bonjour Mathieu, ben écoute, si tu permets, je salue d'abord mes amis auditeurs et mes amis auditrices, et je leur ai préparé deux petites phrases sur l'amour. Alors j'ai une jolie phrase, pleine de poésie, d'Alfred de Musset: la vie est un sommeil, l'amour en est le rêve, et vous aurez vécu si vous avez aimé. C'est gentil. Et puis alors une autre qui est plus dubitative, plus mystérieuse, de Jean Cocteau, le poète: le verbe aimer est difficile à conjuguer, son passé n'est pas simple, son présent n'est qu'indicatif, et son futur est toujours conditionnel. C'est très réaliste dans le fond comme phrase.
Oui.
Voilà, mais c'est gentil toutes ces phrases, moi j'adore ça.
C'est joli, c'est poétique.
C'est poétique, voilà. Et alors donc, bien écoutez, amis auditeurs, amis auditrices et amis Mathieu, je vous ai programmé aujourd'hui un très beau blues qui s'appelle Parchman Farm Blues, qui est enregistré le 7 mars 1940 à Chicago. Et il est interprété par Booker White à la guitare et au chant, et accompagné, qui est accompagné par Washboard Sam, au Washboard comme son nom l'indique. C'est un très beau blues, je vais vous dire deux mots de Booker White, parce que pour moi c'est un géant du blues. Son vrai nom c'était Booker T. Washington White, et il est né le 12 septembre 1909 à Houston dans le Mississippi, décédé le 26 février 1977 à Memphis dans le Tennessee. Il a vécu 63 ans. Enfant, il a chanté à l'église baptiste, et à 9 ans, il apprenait la guitare avec son père. Vers 1920, c'est-à-dire à 11 ans, il avait déjà une vie errante. Vous voyez que la vie de ces Noirs n'était pas facile du tout, dans le Delta. Et c'est là qu'il a rencontré le grand chanteur de blues, Charley Patton, dont je vous ai mis un morceau il y a quelque temps. Il a fait un premier disque, et là je parle de Booker White, hein, un premier disque pour Victor en 1930, à 21 ans. En 1930 toujours, il a eu une vie vagabonde dans différents états des États-Unis et à Chicago. Et à Chicago, il y a pratiqué d'ailleurs la boxe et le baseball. En 1937, il a enregistré pour Vocalion. Il a eu un gros succès avec un morceau qui s'appelle « Shake Em On Down ». Alors là, c'est là où c'est beaucoup plus grave. En 1937, il a été condamné pour tentative de meurtre et incarcéré à Parchman Farm, excusez-moi. Et là, il a été découvert par Alan Lomax. Alan Lomax est un ethnomusicologue, un blanc, qui a fait énormément de recherches dans les États-Unis pour découvrir des grands talents de chanteurs de blues qui pourrissaient et qui étaient parfaitement méconnus. Il a été découvert, retrouvé donc par Alan Lomax, et qui lui a fait enregistrer deux faces pour la Bibliothèque du Congrès. Et Booker White a été libéré sur intervention de Lester Melrose, qui était un producteur de blues et un compositeur. Ensuite, Booker White a fait de nombreuses tournées en Europe, y compris avec l'American Folk Blues, tiens, faudra que je vous en parle un jour, et il apparaît dans le film « En remontant le Mississippi » de Claude Fleuter et Robert Mantoulis en 1972. Alors, Booker White, vous vous rendrez compte par ce morceau que je vous mets, le Parchman Farm Blues, c'est un artiste d'une grande intensité, un peu terrifiante. Il a une voix hurlée, rappeuse, très profonde. Ça sort des tripes, disons, en clair. Et il a, au point de vue guitare, il a un rythme qui est puissant, et en particulier parce qu'il martelait beaucoup les cordes graves de sa guitare, les cordes métalliques d'ailleurs. C'est pour moi un très grand chanteur de blues. Voilà, traditionnel.
Et Georges, tu nous as dit qu'en 1937, si j'ai bien compris, il avait fait un séjour à Parchman Farm. C'est le titre du morceau qu'on va écouter, là, Parchman Farm Blues. C'était quoi cet endroit?
Alors, Parchman Farm Blues, c'était une gigantesque prison qui était dans le Mississippi, dans le comté de Sunflower, Fleur du Ciel. C'est assez paradoxal pour y mettre une prison, d'ailleurs. Officiellement, au point de vue administratif, ça se nommait le Mississippi State Penitentiary, la prison d'État du Mississippi, et c'était supervisé par le Mississippi Department of Correction, ça veut tout dire, avec le mot correction. C'est un établissement qui a été ouvert en 1901, et alors je ne sais pas si tu es assis, Mathieu, mais c'est une prison qui faisait 73 000 hectares, c'est-à-dire 73 kilomètres carrés. C'était un truc absolument gigantesque. C'était bien entendu, surtout au point de vue dans les champs. Il y avait un camp pour les blancs, un camp pour les noirs, et il y avait malheureusement aussi un lieu ou un local pour les exécutions capitales, avec le célèbre couloir de la mort. La discipline était absolument terrible, j'ai des documents là-dessus, c'était très 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 dur pour les prisonniers et en particulier pour les noirs. Il y avait d'ailleurs également une autre prison pour les femmes qui s'appelle le Central Mississippi Correction Facility. Voilà, c'est Parchman Food, ça a été une prison terrible.
Et c'est
voilà, cher ami, est-ce que j'ai éclairé ta lanterne, qui brille d'ailleurs.
Oui, merci Charles, merci. Donc c'est le morceau qu'on va écouter, alors Parchman Farm Blues par Booker White. Merci beaucoup Georges.
Eh bien écoute Mathieu, je te dis, donc on est mercredi, je te dis à demain.
Et oui, à demain.
Et je dis pareillement aux amis auditeurs et auditrices, et je leur souhaite une bonne journée.
Allez, à demain, même heure, Georges. Bonne
Mathieu.
Journée. Salut.
But I'll sell for waking the morning, just the dawn of day. We go to waking the morning, just the dawn of day.
Bukka White sur Clad avec le Parchman Farm Blues. C'était le choix musical de Georges Boton pour sa rubrique Mais la 11e. Et tout de suite, on va découvrir un musicien du Beaujolais, Stéphane Mochamp.
Ensemble sur Clad.
Et tout de suite avec nous sur Clad, c'est un musicien qu'on retrouve, Stéphane Mochamp, joueur de cornemuse qui joue dans de nombreuses formations. Et on le retrouve tout de suite pour nous parler de sa musique et de sa passion pour la musique. Bonjour.
Bonjour.
Peut-être commencer tout simplement par vous demander comment est-ce que vous avez commencé la musique et comment vous avez découvert la cornemuse en particulier.
Alors la musique, c'est une longue histoire. J'ai commencé, j'avais 9 ans, j'ai fait 2 ans de solfège et en vue de commencer à jouer de la trompette. Et puis finalement, ça s'est pas fait. Le professeur de l'époque a estimé que j'avais pas assez de souffle et que j'aurais jamais des muscles, des lèvres qui se formeraient assez bien pour jouer de la trompette. Donc il était pas... On peut pas dire que c'était un exemple de pédagogie.
Oui.
Je repartais assez dépité chez moi. Et je me suis mis finalement à l'orgue, parce que dans les années 80, c'était la grande mode des orgues électroniques. Tout le monde avait à la maison. Et puis finalement, de fil en aiguille, j'étais plutôt autodidacte, donc je suis arrivé dans une chambre d'étudiants où j'avais pas la place pour emmener l'orgue, donc je me suis acheté une guitare que je savais pas accorder. Et puis j'ai avancé comme ça, tranquillement, en me détachant de plus en plus du solfège qui m'avait quand même assez rebuté au début.
Ouais.
Et un beau jour, j'ai eu la révélation pour la musique traditionnelle en entendant de la musique irlandaise dans un pub irlandais à Paris, parce que j'étais étudiant à Paris. Et là, ça a été le choc. Donc le lendemain, je suis allé m'acheter un tin whistle, la petite flûte irlandaise qui coûte pas cher. Et je m'y suis mis comme ça, tout doucement. Et puis après, je suis revenu sur Lyon où j'avais fait une partie de mes études. Et là, j'ai vu cours de cornemuse. Donc là, on était en 1992, quelque chose comme ça. Et j'ai donc atterri au Centre de musique traditionnelle Rhône-Alpes, le CMTRA, où Jean Blanchard, qui est une personne très importante dans le monde de la cornemuse en France, c'était lui le prof de cornemuse. Et je savais pas du tout ce que ça allait être. Pour moi, la cornemuse, c'était cornemuse écossaise. Enfin, c'était assez flou. Je pense comme pour pas mal de gens d'ailleurs. Et là, la cornemuse en question, c'était la cornemuse du centre de la France. Donc Berry, Bourbonnais, et je suis tombé littéralement amoureux de l'instrument. Voilà.
Et vous nous avez dit, vous avez commencé la musique traditionnelle plutôt, avec un flutio traditionnel. Aujourd'hui, apprendre la musique grâce à Internet, c'est hyper facile. Dans les années 90, comment vous faisiez? Vous aviez cherché des gens pour vous apprendre
Non, à l'époque, j'achetais des disques, des cassettes même à l'époque. Je me rappelle ma première cassette des Dubliners, au vieux groupe irlandais, vraiment de la musique de pub, que j'avais acheté. C'est un des rares disques que j'avais trouvé à la FNAC à l'époque, à Lyon. C'est une cassette même. Et j'apprenais comme ça en écoutant.
En essayant de copier.
Voilà, en écoutant, en travaillant d'oreille, hein, essentiellement. Et d'ailleurs, la tradition orale, j'en viens. Une petite parenthèse là-dessus, c'est la tradition orale, c'est vraiment ce qui fait partie intégrante de la transmission dans les musiques traditionnelles. C'est vraiment le solfège, c'est loin d'être interdit ni banni, hein, mais c'est pas la référence de base pour apprendre la musique. On considère que pour apprendre la musique, la tradition orale, l'oralité, c'est quelque chose de primordial. Et c'est ce qui permet d'ailleurs de pouvoir buffer quand on est dans des festivals avec d'autres musiciens de manière très spontanée, ce qui fait le charme des musiques traditionnelles en général.
Et alors, cette musique traditionnelle, vous l'êtes appropriée, on va dire, et vous l'avez jouée dans plusieurs formations. Après avoir appris à jouer la cornemuse, vous avez participé à combien de groupes, par exemple?
Alors là, c'est une bonne question. J'ai fait partie d'une troupe au départ, quand j'ai commencé à jouer de la cornemuse, une troupe qui s'appelait Gévaudan. Alors là, on était plus dans le côté folklore un petit peu, avec des costumes, mais on avait c'était déjà un petit peu dissident entre guillemets, parce qu'on avait quand même un spectacle qui était un peu un spectacle théâtral, enfin c'était pas le folklore pur et dur. Mais ça, j'ai commencé à faire mes classes un peu là-dedans, et puis donc on allait beaucoup en Lozère. Et puis après, ben j'ai fait partie d'un groupe qui s'appelait Valse Pareil, avec Anatole Benoît, qui était un musicien qui avait déjà joué dans les années 70 dans un groupe qui s'appelait le Claque Galoche. Alors je vous sors des bons vieux noms bien folk, hein. Et puis après j'ai eu la chance de jouer en trio avec Jean Blanchard qui était mon prof de cornemuse de départ, mm-hmm. qui m'a passé les rênes d'ailleurs pour enseigner la cornemuse au CMTRA pendant pas mal d'années. Et donc je jouais en trio avec Jean Blanchard et Robert Amiot, qui est un très grand joueur de cornemuse aussi, québécois d'origine. Mmh. Et donc ça s'appelait Tricorne.
D'accord.
Et puis j'ai aussi joué en duo, je parle au passé, mais c'est pas complètement mort, mais on va dire que l'éloignement fait qu'on joue très rarement ensemble, avec un joueur de Vielle-la-Roue, qui est assez connu aussi en France, s'appelle Yann Gourdon. Mmh.
Alors la Vielle-la-Roue, c'est un instrument où on tourne une espèce de grande manivelle.
Voilà, ouais, c'est un petit peu, c'est un peu le principe du violon avec des cordes frottées, mm-hmm. sauf qu'on a, la production d'un son continu, parce que au lieu d'avoir un archet, c'est la roue qui va frotter les cordes, et en fait, tant qu'on tourne, ça s'arrête pas. Mmh. Et puis il y a un aspect rythmique qu'on peut donner en donnant des coups de poignet avec la manivelle. Et puis Yann Gourdon, bon, pour le coup, lui est assez réputé pour sortir un peu des sentiers battus, voire même carrément avec sa Vielle-la-Roue. Donc maintenant on a des Vielle-la-Roue électroacoustiques qui permettent
d'amplifier le son.
Voilà, d'amplifier le son, de faire beaucoup de choses. Mmh. Et puis ce qui est très important aussi, la Vielle-la-Roue, c'était l'instrument emblématique avec la cornemuse, hein, dans le centre de la France. C'était vraiment, on avait le duo Vielle-la-Roue cornemuse, qui était vraiment un duo quasi ancestral. Et ce qu'ils avaient en commun, ces deux instruments, c'est que c'est des instruments qui jouent sur le bourdon.
Le
bourdon, c'est les tuyaux qu'on a sur les épaules des cornemuses. Mmh. Et c'est ce son continu, grave en général, qu'on entend et sur lequel on va venir... poser les notes, c'est vraiment cet accompagnement très caractéristique, cette espèce de rein que tout le monde...
De la cornemuse.
Voilà, tout d'un coup on pense à la cornemuse. Et c'est vraiment la particularité de ces instruments-là.
D'accord. Et oui, vous nous dites qu'il aime bien sortir des sentiers battus, ce musicien, mais je crois savoir que vous aussi, vous avez aussi participé à un groupe qui s'appelle Nayal, par exemple, où là, on est loin de la musique traditionnelle, enfin loin. Il y a toujours quelques notes qui nous y rappellent, mais on est quand même dans quelque chose de plus électrique.
Oui, alors Nayal, c'était avec Cédric, qui est qui se définit lui-même comme non-musicien, mais moi je suis pas d'accord, parce que il a quand même une sacrée oreille musicale, ce garçon. Et lui, il venait plutôt des musiques expérimentales. Mmh. Et ben, on travaille ensemble. Parce que moi, la musique, c'est pas mon métier principal. J'ai toujours eu un autre métier, et voilà, c'est la vie, hein, c'est des choix aussi de vie. Et donc on travaille ensemble, et d'un moment, on était tellement passionnés tous les deux par la musique, on s'est dit qu'on allait faire un album ensemble, qu'on a mis 4 ans à faire. Et Nayal, c'est donc le fruit de ce travail. Donc l'intitulé, entre guillemets, de notre formation, c'était Cornemuse et traitement sonore. Donc voilà, je lui laissais la liberté de triturer un peu les sons de cornemuse, mais on avait quand même un cahier des charges assez précis, où on voulait quand même entendre vraiment la cornemuse pure et dure aussi, enfin voilà. C'est quand même, c'était une démarche assez expérimentale, mais... Mais c'est vrai que moi je viens j'ai une adolescence plutôt rock, hein, punk rock, moi, donc...
Vous vous êtes retrouvé un peu là-dedans, dans ce projet.
Oui, et puis j'écoute beaucoup de musique contemporaine, un peu expérimental aussi, et puis beaucoup de rock des années 70. Mmh. Donc voilà, ça me paraît assez... finalement, la cornemuse, même s'il y a le côté traditionnel et des choses magnifiques dans la tradition et dans tout le répertoire qu'on a pu retrouver par le collectage, il y a moi je compose beaucoup d'ailleurs, ouais. Et puis je trouve que bah, c'est un instrument pour moi qui est un instrument à part entière, qu'on n'est pas obligé de cantonner uniquement à un style. Et,
C'est ce qu'on a tendance à faire facilement quand on se dit à un joueur de cornemuse qui joue notamment de la musique traditionnelle, ben on imagine quelqu'un qui écoute uniquement de la musique traditionnelle, qui joue uniquement ça, mais c'est des stéréotypes. On va vite dans la facilité.
oui, c'est vrai. Ben non, je pense qu'il faut, effectivement, pour rentrer dans ces musiques-là, à un moment donné, parlant vulgairement, faut en bouffer, quoi. Faut vraiment en écouter énormément et puis se fondre là-dedans. C'est exigeant à un moment donné pour commencer quand on commence à rentrer dans des choses vraiment musicales, d'ornementation, de style, etc. Là, faut vraiment en écouter ce genre de musique-là. Mais après, ben, c'est un petit peu comme tout, quoi. Quand on maîtrise un petit peu, on peut s'en détacher et puis. Vrai que maintenant, voilà, la cornemuse, c'est mon instrument principal. Bon, je joue d'autres instruments, mais c'est vraiment mon instrument principal. C'est celui avec lequel je me sens plus libre de faire ce que je veux, quelque part.
Et de vraiment jouer de la musique. J'aime bien ce mot, jouer de la musique, et pas faire de la musique. C'est quand on est capable de s'amuser avec un instrument et justement faire ce qu'on veut, comme vous le dites. Si vous voulez. Et vous nous avez dit que vous composiez beaucoup. Le dernier projet là, sur lequel vous êtes, par exemple...
Alors là, c'est un projet qui me tenait à cœur. J'ai des compositions qui dormaient depuis peut-être 8-9 ans. Et j'avais envie d'en faire quelque chose. Je ne savais pas encore trop. Ça a mûri tout doucement dans ma tête. Et puis, confinement aidant, je crois que je me suis dit, tiens, allez, c'est le moment de s'y mettre, de s'y coller sur ces morceaux-là. Alors moi, quand je compose, il y a deux grandes phases. Hein. Il y a deux grands types de morceaux. Il y a des morceaux qui sont vraiment très empreints de tradition, qui sont sur des rythmes de danse, voilà, des valses, des mazurkas, des bourrées, des scottish, tous les danses qu'on va trouver dans les bals folk, par exemple. Et puis, y a deux morceaux qui n'ont rien à voir, quoi. Ils sont mes morceaux à moi. Avec mes rythmes à moi et mon univers à moi. Et là, ce que je suis en train d'enregistrer en ce moment, c'est un mélange autour d'un projet cornemuse et guitare électrique. Donc là, je reviens un peu... c'est un peu plus rock'n'roll, tout en étant un petit peu expérimental aussi. J'essaie de marier un petit peu ces timbres que je trouve qui sont vraiment intéressants à marier les uns avec les autres, hein, les cornemuses et la guitare électrique. Je trouve que la guitare électrique, elle a un côté, elle peut se rajouter au bourdon en lui donnant justement ce son continu, en lui donnant une matière, une rugosité, quelque chose qui peut être très intéressant. Puis harmoniquement, on peut faire plein de choses aussi. Donc,
D'accord, une belle alliance entre guitare électrique et cornemuse. Et là, vous en êtes tout de l'évolution du projet. Vous avez enregistré déjà quelques morceaux
Ouais, j'ai quand même pas mal de morceaux enregistrés. Il y en a encore 2-3 qui sont un petit peu en cours. Mmh. Et puis, il y a quelques morceaux qui sont en cours de mixage aussi. Après, je sais pas encore sous quelle forme ça sortira. Est-ce qu'il y aura vraiment une sortie physique de ce CD, ou est-ce que ce sera une sortie numérique uniquement? Ça va être aussi une question de moyens et de...
Ouais, c'est ce qui se fait beaucoup en ce moment, des sorties exclusivement numériques. Très bien. Et ben, ce que je vous propose, c'est que après avoir beaucoup parlé de votre musique, on en écoute un petit peu. On écoute un morceau qui s'appelle Omega, et que vous avez sorti avec Nayal, le groupe dont on parlait tout à l'heure. Et ben, on va découvrir votre musique tout de suite. Merci beaucoup, Stéphane Beauchamp.
Merci à vous.
Et puis bonne continuation donc.
Merci beaucoup, au revoir.
Au revoir.